Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
First day at McDonald's, I'm looking for a job.
Donald Trump qui embauche chez McDo. En Pennsylvanie dimanche, le candidat républicain s'est mis en scène. De la friteuse à l'accueil clientèle. L'occasion de tacler sa rivale démocrate Kamala Harris, qui assure avoir travaillé au fast-food lorsqu'elle était étudiante.
Happy birthday, Kamala.
Au même moment, Kamala Harris fêtait ses 60 ans avec la star américaine Stevie Wonder dans une église de Géorgie, sans perdre de vue son duel avec Donald Trump.
What kind of country do we want to live in? A country of chaos, fear and hate, or a country of freedom, compassion and justice?
Quelle Amérique sortira des urnes? Au vu de la mécanique électorale américaine où les grands électeurs auront le dernier mot, le scrutin s'annonce plus indécis que jamais.
49% d'intention de vote pour la vice-présidente Kamala Harris, 48% pour l'ancien président Donald Trump.
Mon boulot, c'est d'essayer de dire aux gens qui va gagner, et je dois être honnête avec vous, je n'en ai pas la moindre idée.
C'est tellement serré.
Tellement serré que les esprits s'échauffent entre les deux candidats.
So you have to tell Kamala Harris you're a shit vice president. The worst.
He's becoming increasingly unstable and unhinged.
Kamala Harris accuse son rival de sénilité et d'outrance. Donald Trump, lui, peut compter sur le soutien du milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social X.
Fight, fight, fight. Vote, vote, vote. Thank you.
Alors Elon Musk peut-il faire gagner le républicain? Pourquoi le scrutin s'annonce-t-il si serré entre Donald Trump et Kamala Harris? La victoire va-t-elle se jouer à quelques milliers de voix près?
Nos trois experts pour ce débat, Maxime Charvot, bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la politique américaine. Selon vous, il faut remonter aux années 60 pour trouver une élection avec une telle violence verbale ou physique. Les réseaux sociaux, ajoutez-vous, amplifient cette violence et la question du changement climatique ajoute de l'incertitude au scrutin dont on aura le résultat le 5 novembre. On le voit avec les ouragans. Anne Desine, bonsoir madame, juriste et professeure émérite de droit et de civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Votre dernier ouvrage, « Les juges contre l'Amérique » vient de paraître aux éditions Libellus, dans la collection Libellus. Selon vous, cette élection va se jouer dans deux ou trois États clés, on y reviendra évidemment, et elle dépendra de quelques milliers de voix. Si Trump est perdant, il refusera la défaite. Ses troupes, ajoutez-vous, placent déjà leurs pions pour bloquer tous les processus de certification de l'élection. Et Patricia Alémonière, bonsoir madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Vous étiez aux États-Unis en 2016, n'est-ce pas, lors de la pré-campagne Hillary Clinton-Donald Trump. Selon vous, le rôle central d'Elon Musk est révélateur de cette campagne à base de punchline, de show et de pipolisation poussée à l'extrême. Trump-Musk, c'est l'alliance de deux égaux pour des raisons purement tactiques. Et on va développer toutes ces questions après le chiffre du jour.
L'élection présidentielle américaine va se jouer dans 7 swing states, c'est-à-dire ces États qui peuvent pencher ou bien du côté démocrate, ou bien du côté républicain. Ils sont donc la clé du vote. On va les voir sur la carte. Hein. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Géorgie, Caroline du Nord et la stratégique aussi, Pennsylvanie. Ils cumulent ces États au total 93 grands électeurs sur les 538 que compte l'élection présidentielle américaine. Et ces grands électeurs désignent ensuite le ou la vainqueur. Maxime Charvot, dans ces États-là, c'est ultra serré en ce moment.
Complètement. On a grosso modo à peu près 4% des électeurs dans chacun de ces États qui, pour l'instant, ne sait pas s'ils vont aller voter ou s'ils vont choisir l'un ou l'autre, probablement le moins pire des deux, selon eux en tout cas, dans les sept États qui sont ici. Donc c'est ça qui, comment dire, ajoute beaucoup d'incertitude à cette élection et qui la rend historique du point de vue très contemporain, dans le sens où on n'a plus l'habitude de campagnes américaines qui se jouent sur plus de 4, 5 États. Le fait d'en avoir 7, bon, il n'y aura pas de vague, donc ça élargira probablement pas la carte beaucoup plus que ça, mais le fait d'en avoir 7, c'est ça qui rend encore plus difficile d'avoir des pronostics à 15 jours de l'élection.
Anne-Lézine, alors si on regarde bien la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, si l'un des deux candidats remporte ces trois États, il gagne l'élection, c'est ça?
Oui. Et c'est vrai que...
Parce qu'il y a le plus grand nombre de grands électeurs dans ces États-là sur les 7.
En Pennsylvanie, 19 grands électeurs. Donc, si l'un des candidats remporte la Pennsylvanie, ça veut dire qu'il y a plusieurs voix pour atteindre le seuil de 270. Cela m'étonnerait que l'un des deux obtienne les trois, parce que la Géorgie, alors qu'elle penchait démocrate, est en train de pencher plutôt républicain, et la Caroline plutôt démocrate. Donc il y aurait une division. Nevada, Arizona, on pourrait penser que c'est le même contexte, ce sont des États de l'Ouest, etc. Et l'Arizona, dans lequel les démocrates avaient fait des bons scores en 2020 et en 2022, là, Kamala Harris est un petit peu en retrait. Mais là, on parle de scores genre 48-49 dans la fameuse marge d'erreur. Donc, il suffit de 500 électeurs pour que ça bascule d'un côté ou l'autre.
Oui, parce qu'il faut rappeler, pour les gamins en vacances qui nous regardent, par exemple, ce n'est pas le suffrage universel direct, mais c'est le suffrage universel indirect. Les Américains, les 240 et quelques millions d'électeurs, vont élire des grands électeurs qui, à leur tour, vont élire l'un des deux. C'est voilà. Ça, hein.
Et la spécificité, c'est que... ça se joue à un électeur. Il suffit finalement que quelqu'un ait 50 plus un vote pour qu'il remporte tous les grands électeurs. Je trouve que c'est une élection qui pose quand même la question de la démocratie américaine. Parce qu'on critique, par exemple, les élections à Paris, à Marseille, puisqu'on les trouve parfois non démocratiques et injustes, puisque justement, c'est au suffrage indirect. Alors, qu'en est-il, effectivement, des États-Unis? Parce que là, on l'avait très bien vu avec Hillary Clinton, elle avait remporté à 3 millions de voix les votes, au vote populaire, ce que l'on appelle aux États-Unis. Voilà. Et lorsqu'il s'est agi des fameux grands électeurs, c'est-à-dire de ce vote qu'on dira pour les enfants à deux étages, en quelque sorte, eh bien là, elle a perdu.
Alors, c'est l'objet de notre archive, effectivement. Et 2000 aussi, l'année 2000, c'était la même chose. Les démocrates avaient remporté le vote populaire, mais pas l'élection. Regardez l'archive, celle-ci, c'est 2016, Hillary Clinton.
Donald Trump n'est pas leur président. Pour de nombreux manifestants à travers le pays, l'élection de Trump est injuste. Hillary Clinton a obtenu 2,5 millions de voix de plus que l'homme d'affaires. La raison de leur colère, un système vieux comme la Constitution américaine, le collège électoral.
Je ne pense pas que mes droits ont été entendus. Je crois que le collège électoral doit être revu. Le collège électoral est archaïque et ne représente pas le peuple.
Le système électoral est défaillant. C'est ridicule.
Mais on peut pas le réformer.
Et le système n'a jamais été réformé, Maxime Chervo. Est-ce que ça peut se reproduire, là, dans cette élection, c'est-à-dire que Kamala Harris décroche le vote populaire, mais au final ne soit pas élue?
Oui, complètement. D'ailleurs, si Donald Trump, avec les sondages qu'on a pour l'instant et les chiffres qu'on a pour l'instant, si Donald Trump est élu, il y a de très fortes chances qu'il perde de toute façon le scrutin au niveau national, mais pour deux raisons très simples, c'est New York et la Californie. C'est-à-dire que à New York et en Californie, vous avez un surplus de plusieurs millions d'électeurs démocrates, mais sauf comme il faut un électeur en plus de la majorité pour pouvoir remporter l'État, ça fait un surplus qui est perdu, tout simplement, d'ailleurs.
Mais qui seront les arbitres? On dit que c'est les républicains modérés, ceux qui ne veulent pas aller vers Trump, mais en même temps qui rechignent à voter Kamala Harris.
Si l'on voit les stratégies de Harris en ce moment, et là où elle fait campagne et avec qui elle fait campagne, il semblerait que ce soit la solution éventuelle, puisqu'il y a quelques jours, elle était avec 100 républicains, la fameuse Liz Cheney, qui avait siégé dans la commission du 6 janvier pour enquêter sur l'insurrection, le papa de Liz Cheney, et puis surtout, beaucoup de républicains qui ont été dans la sécurité nationale, qui ont travaillé avec tous les présidents républicains, y compris avec Donald Trump, et qui clament haut et fort partout qu'il n'est pas possible qu'il redevienne président parce que c'est dangereux pour la sécurité nationale des États-Unis.
Oui, mais ceci dit, ils ne veulent pas voter Trump, ne se sentent pas votant Trump, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter Kamala Harris. Ils peuvent tout simplement rester chez eux.
Voter pour les trois petits candidats, les fameux libertariens, l'écologiste et l'antiraciste.
Donc l'abstention, ça sera important à regarder.
L'abstention, comme toujours, ça sera important, mais ça sera important à regarder par secteur. Et ça sera aussi important de regarder le vote mâle noir et le vote masculin latino aussi. Parce que c'était des populations qui votaient par tradition démocrate et qui aujourd'hui sont en train, effectivement, d'aller vers le vote républicain. Parce que Trump, justement, avec sa hargne, sa force, il est en train de dire « Vous, les garçons, venez avec moi », quoi, en quelque sorte.
Maxime Charbon, est-ce que c'est vraiment l'élection la plus violente? Parce que, vous le disiez dans la préparation de cette émission, on a connu Jackson en 1828, c'était déjà violent, la politique américaine. Est-ce que ça l'est vraiment encore plus cette fois-ci?
La politique américaine a toujours été violente.
Il y a eu des morts, des assassinats.
Au 19e siècle en particulier, mais même à plusieurs moments durant le 20e siècle. Alors, l'anecdote de Jackson, c'était... Andrew Jackson a été élu en 1828 et sa femme est décédée quelques semaines après l'élection, avant même qu'il ait le temps, en diligence, d'arriver jusqu'à Washington. Et il a toujours reproché à ses adversaires de l'époque, certains qui étaient d'ailleurs des anciens alliés, la virulence de leurs attaques qui aurait conduit, en critiquant sa femme, à provoquer son décès, grosso modo. Donc on a ce regain plutôt, du coup, maintenant, de violence aujourd'hui, de violence physique, de violence verbale. Ce qui est vraiment différent, c'est les réseaux sociaux, qui leur donne du coup une certaine caisse de résonance, complètement. Et quand on parlait du changement climatique, c'est juste que autant on a eu des élections où un événement climatique a pu vraiment jouer sur le vote, tout simplement. On l'a vu, Katrina.
Katrina.
Vraiment été, la gestion de Katrina avait vraiment été un coup sur l'administration Bush à l'époque. Mais cette fois-ci, on a déjà deux gros événements climatiques qui sont venus désorganiser complètement des régions en Floride, en Caroline du Nord, une partie de la Géorgie. Et c'est vrai que du coup, avec l'incertitude sur comment est-ce qu'on va organiser des élections dans cet endroit-là, et surtout les théories du complot à rallonge qui se sont ajoutées dans le seuil avec une représentante au Congrès fédéral qui dit de toute façon, on sait très bien que ce sont les humains qui dirigent les ouragans.
Cette désinformation majeure.
Les démocrates envoient les ouragans sur les comtés républicains.
Oui. Non, mais Trump dit quand même qu'ils ont volé l'argent aussi de l'agence fédérale qui doit traiter les ouragans. Et ça, bien, les républicains et au-delà l'entendent. C'est
bien
ça qu'ils entendent aussi que les migrants mangent les chiens et les chats. On en a parlé sur ce plateau, on en est toujours sidérés. Mais bon, c'est pas plus concret que ça.
C'est une désinformation très dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nuit à ceux qui essaient d'aider les victimes des ouragans. Elle nuit aux gens, les Haïtiens qui sont agressés, etc. Et cela prend parce que les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Donc on se permet des choses qu'on ne dirait peut-être pas en face à face. Et puis, sur le plan juridique, c'est l'immunité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que personne ne peut poursuivre les réseaux sociaux, quoi qu'ils mettent en ligne. Et qu'ils fassent semblant de modérer, de ne pas modérer, ou qu'ils s'abstiennent totalement de modérer, comme sur X, on ne peut pas les poursuivre. Et donc, quand on ajoute à ça le premier amendement qui protège la liberté d'expression, derrière lequel Elon Musk s'abrite pour faire circuler ses théories du complot, on a cette situation qui est quand même bien différente du 19e siècle.
On va parler de lui après, mais à propos de Kamala Harris, on a vu Donald Trump la traiter de vice-présidente de merde, et Kamala Harris tenter de tout faire pour juguler sa colère et ne pas tomber dans une spirale ascensionnelle de haine et de colère.
Oui, mais alors ce qui est intéressant...
C'est un piège.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle emploie des mots beaucoup plus polissés à l'égard de Trump. Oui. Il dit qu'il n'est pas fait, en quelque sorte, pour être président, il n'a pas la dignité, il n'a pas l'allure, il n'a pas... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sa campagne a bougé. C'est-à-dire qu'au début de la campagne, elle incarnait un peu un nouveau discours démocrate. La joie, la liberté, d'être ensemble, etc. Et puis là, on a l'impression que son staff se dit, comme cette campagne, ça ne marche pas trop, parce qu'elle ne veut pas, en fait, dire ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Parce que cette femme, autant tout le monde connaît Trump, ses affres, ses histoires avec les femmes, mais personne ne connaît Kamala Harris. Donc, elle ne se dévoile quand même pas trop, même s'il y a des petites publicités. Et vidéos. Et donc, son équipe, on a l'impression, lui demande de switcher, de changer sa campagne et de faire plus en sorte de revenir au thème de Biden, dans des termes plus polissés, qui attaquait Trump comme le danger de la démocratie. Et elle est en train de refaire ce qu'était la stratégie de Biden, de faire de ces élections un référendum, oui ou non, pour Trump. Et c'est ce qu'elle est en train de refaire. Et je ne sais pas si ça sera si payant que ça.
C'est vrai que c'est assez difficile parce qu'il faut remettre en contexte une campagne américaine. Quand vous voulez monter une campagne présidentielle aujourd'hui, c'est un an et demi de travail. C'est des milliards de dollars, c'est un an et demi de travail. Elle a eu 3 mois pour monter une campagne, se faire connaître et attaquer Trump sans réussir à se faire caricaturer et en plus sans faire de bourde qui aurait été rédhibitoire auprès d'une partie de l'électorat.
Mais cette prudence-là, je trouve, qui a été le thème de cette campagne, elle est presque préjudiciable aujourd'hui.
Là, elle change. De toute façon, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle change maintenant. Voilà. Un peu dynamique, c'est ça.
En tous les cas, Donald Trump, est-ce qu'il anticipe une défaite pour mieux la dénoncer? Il dénonce déjà, en tout cas, les votes anticipés qui ont déjà commencé aux États-Unis. 15 millions d'Américains ont déjà voté. Il dit que ça pourrait être l'origine de fraude. Écoutez-le.
Now we have this stupid stuff where you can vote 45 days early. I wonder what the hell happens during that 45. Let's move the CD's votes. We've got about a million votes in there. Let's move them. It's terrible. What happened the last time was disgraceful, including right here. But we're not going to let it happen again. Too, you know, too big to rig, right? That's one way you do it. Can't let it happen. We got to take our country back from these horrible people, because if we win Pennsylvania, we win the whole thing. It's very simple.
Andesine, il se prépare déjà à contester le vote, Donald Trump, et de manière plus professionnelle que la dernière fois, peut-être.
Oui, vous vous rappelez qu'en 2020, avant même l'élection, il a dit, de toute façon, si je perds, c'est qu'il y aura de la fraude. Mm-hmm. Et tout a été mis en œuvre durant 4 ans pour préparer cette contestation.
Parce sur le plan juridique, vous voulez dire, avec
alors,
des juristes.
Sur le plan politique, sur le plan de tout, parce que finalement, il était un peu naïf en 2020. Ils ont essayé tout un tas de stratégies dans le désordre, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont appris leurs leçons. Et puis surtout, les républicains dans les États qu'ils dominent, c'est-à-dire plus de la moitié, ont mis en place des règles non seulement pour empêcher les électeurs démocrates d'aller voter, ce qu'on appelle « voter suppression », donc on change les règles du jeu, on limite les jours de vote anticipé qui sont censés être si dangereux mais qui permettent aux gens qui ne peuvent pas se déplacer le jour de l'élection de venir voter. Mais en plus, ils ont mis des mécanismes qu'on appelle « subversion de l'élection », c'est-à-dire placer là où il y avait des indépendants en charge des élections, des loyaux à Trump qui, eux, feront ce que demande Trump. Et vous rappelez que le Parti républicain est maintenant aux mains de la belle-fille de Trump. Donc tout l'argent collecté, ça va à Trump pour payer les frais d'avocat, et les stratégies, c'est Lara Trump qui décide. Donc ça va être beaucoup plus compliqué.
Ça va être beaucoup plus compliqué, et si jamais le juridique échouait, il pourrait y avoir aussi ce qui s'était produit, un assaut contre des institutions, voire le Capitole, une redite de ça. Enfin, c'est quelque chose qui est craint.
Oui, c'est craint, forcément. C'est vrai que quand vous avez cet événement 4 ans auparavant, traumatique. Forcément, vous avez peur que ça arrive une nouvelle fois. On en parlait, c'est vrai, avant l'émission. Moi, j'ai plutôt peur quand même d'un autre scénario, qui est un scénario un peu plus institutionnel, où, comme on l'avait expliqué plus tôt dans l'émission, l'élection est indirecte. Donc, dans chaque État, on est élu d'une liste de grands électeurs.
Suffrage indirect.
Exactement. Et chaque parlement dans les États, chaque congrès dans les États, a le pouvoir de choisir une liste alternative si elle estime que la liste n'est pas légitime ou pour des raisons diverses et variées. Et donc, ce dont j'aurais plus peur, c'est ce qu'on a commencé de voir en 2020 déjà. Il y a eu 4 à 5 États qui ont essayé de mettre en place des listes alternatives et les envoyer au Congrès pour que le Congrès puisse choisir.
C'est quoi laquelle... une liste alternative, pardon ?
Ben vous, par exemple, si vous avez 19 grands électeurs en Pennsylvanie, ce sont 19 noms, souvent des caciques du parti. Vous en choisissez 19 autres et vous les envoyez au Congrès. Et le Congrès, qui se réunit en janvier pour certifier les élections, peut dire, oui, là, il y a un doute sur la légitimité, celle-ci est la bonne liste, et pas celle que les résultats nous donnent au bout du compte. Et donc, vous pouvez simplement changer le calcul et qui a gagné l'élection.
Mais avant même cela, il y a un certain nombre d'États qui ont dit, bah, nous, on va refuser de certifier l'élection. Mmh. Alors que c'est une procédure administrative, parce que s'il y a refus de certification, cela veut dire que l'État, peut-être, ne va pas respecter les dates butoirs. Parce que dans ce système, avec les grands électeurs, il y a une première au niveau de l'État, puis ensuite, en décembre, tous les États, certification, et ensuite, début janvier. Et là, la loi qui prévoit ce système et qui a été renforcée pour dire très clairement que le vice-président n'a pas le droit de refuser de certifier. Elle prévoit malheureusement des dates butoirs impératives. Mmh. Donc que se passe-t-il si la Géorgie, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent, si la Géorgie n'est pas prête, n'a pas certifié pour la date butoir, est-ce que cela veut dire que ça va renvoyer le choix final à la Chambre de représentants, et donc ce sont les Républicains qui vont choisir, et donc ils vont choisir M. Trump.
Alors, on va évoquer avec vous trois le cas et l'influence déterminante ou pas d'Elon Musk. Et on va parler avec vous, Anna, à propos d'une loterie qui fait effroyablement polémique.
Oui, c'est une première dans l'histoire des élections américaines. Le milliardaire Elon Musk offre $1 million chaque jour à un électeur tiré au sort et qui vit dans un de ces 7 états-clés dont on a parlé. Alors, pour espérer remporter le gros lot, il faut avoir préalablement signé sa pétition qui défend les 2 premiers amendements de la Constitution, à savoir la liberté d'expression et le droit de porter une arme. Les 3 premiers chèques, on va le voir, ont déjà été remis en grande pompe dans l'État de Pennsylvanie, où l'élection peut se jouer, on l'a dit, à seulement quelques milliers de voix. Alors avec cette loterie, Musk espère donc rallier de nouveaux électeurs derrière Trump, mais pour certains avocats, cela revient à acheter des voix, ce qui, semble-t-il, est contraire aux lois fédérales et donc passible d'une amende de 10 000 dollars et de 5 ans d'emprisonnement. Mais pour d'autres, Elon Musk joue simplement la zone grise, c'est-à-dire qu'il n'incite pas directement à voter pour une personne, mais plutôt à signer une pétition. Alors maintenant, imaginons que Trump remporte cette élection de manière très serrée. Patricia Lémonière, est-ce que vous pensez que les démocrates vont engager une bataille juridique, avoir des recours pour dénoncer cette loterie?
Ah bah, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura sûrement les démocrates vont se battre aussi. Ils ont déjà toute leur batterie d'avocats prêts à contester. Alors, reste à savoir s'ils vont particulièrement attaquer sur Elon Musk. C'est l'avenir qui nous le dira. En ce qui concerne la légalité ou l'illégalité, ouais, nous, en France, on a toujours envie de dire, effectivement, c'est illégal tellement cela nous choque.
Tellement c'est énorme.
Mais purement et simplement, si on s'en tient qu'au texte aux États-Unis, dans la mesure où il n'y a pas achat de vote pour, de voix directe, pour voter directement, c'est simplement on demande de signer une pétition, hein, en quelque sorte. Mmh. Donc c'est totalement indirect et effectivement c'est une zone qui est très grise. Et je fais confiance quand même à Elon Musk de s'être entouré aussi d'une batterie d'avocats pour, ouais, essayer de trouver quelle est la zone grise. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que cet homme, qui est quand même un atout un entre guillemets, quand même pour Donald Trump, parce que c'est quand même le méga patron mondial, le plus grand patron au monde. Alors, ça fait très chic d'avoir le plus grand patron du monde, et l'homme le plus riche du monde à ses côtés. Mais cet homme, en ce moment, est comme un gamin qui jubile. On a l'impression qu'il découvre les meetings, il saute, il rigole, il semble complètement très heureux. Ce qui est dramatique, c'est que c'est un homme qui prêche quand même, qui est liberticide, et qui le monde qu'il veut nous vendre est quand même un monde très dangereux. Et donc cette association Trump, Elon Musk, je ne sais pas si elle durera très longtemps dans le temps, parce que c'est quand même deux égos hypertrophiés, mais la fin est inquiétante.
Mais Maxime Chervaux, il utilise quand même sa fortune personnelle, c'est 75 millions d'euros qui ont été mis dans la campagne de Donald Trump, c'est quand même une influence qui est non négligeable.
Vous allez dire c'est rien?
Non, c'est
au
pas
regard
rien.
De sa fortune,
c'est
fortune. Au regard de sa fortune. Au regard de sa fortune.
Mais, est-ce que ça a un impact sur les... Ça peut avoir un impact réel sur l'élection?
De toute façon, si l'élection elle est remportée dans cet État à 2000 voix à chaque fois, tout peut avoir un impact sur l'élection. Maintenant, sur Donald Trump... Et c'est aussi un petit peu le miroir des chiffres. C'est-à-dire que, c'est pareil, on dit que Kamala Harris a levé un milliard en l'espace depuis l'annonce de sa campagne, c'est possible. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec un milliard en deux mois? C'est ça la question. Et donc, c'est pareil avec Elon Musk. Comment quelqu'un qui n'a jamais monté de campagne électorale, il n'a pas d'infrastructure électorale...
Enfin, il a X, il a le réseau social, oui. c'est une...
Mais les 75 millions, c'est 75 millions pour payer des gens à faire du porte-à-porte.
Oui, c'est pas mal.
Oui, mais en fait, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a...
Déguisé.
Oui, mais en fait, c'est, comment dire, en un mois et demi de temps, vous n'avez pas le temps de monter un vrai effort électoral efficace. Donc ça peut aller ramener des électeurs, je suis d'accord, ça fait le show, ça met en difficulté l'adversaire en disant on a cet élément en plus à gérer en plus en face de nous, mais on a même déjà des premiers cas où des personnes auraient largement surestimé le nombre de portes auxquelles ils auraient frappé pour toucher l'argent au bout du compte, par exemple.
Quand on parle réseaux sociaux, est-ce que, quelque part, ce qui n'est pas plus inquiétant, c'est les ingérences extérieures, étrangères, avec beaucoup de fake news, on dit qu'ils viennent de Russie, de Chine, d'Iran même, et qui sont relayées notamment sur Twitter, mais au-delà, sur Instagram et sur les réseaux sociaux qu'on connaît.
Oui, alors pour revenir sur Musk, je pense que le plus grand danger, c'est, comme on a dit que c'était une campagne genrée, c'est l'identification de tous ces mâles avec ce type qui a si bien réussi. Et si lui soutient Donald Trump, c'est que Donald Trump, c'est quelqu'un de bien. Et ça, j'ai l'impression que c'est certainement aussi important que le million, etc. Et il n'y aura pas de poursuite. Là, je parlais avec des gens au ministère de la Justice.
Par rapport à la loterie.
Oui, c'est trop compliqué, c'est trop ténu, il n'y aura pas de poursuite. Alors, votre question, je l'ai oubliée.
Sur les ingérences étrangères.
Alors, la difficulté des ingérences, c'est que théoriquement, les départements de la cybersécurité sont au courant. Ils essaient de les arrêter. Mais si les réseaux sociaux ne font pas de modération, que se passe-t-il? Donc, eux, ils essaient d'agir en aval, alors qu'il faudrait agir en amont.
Bonne conclusion pour ce débat. On n'a plus le temps, donc on attend, on verra, le 5 novembre. Merci à tous les trois d'être venus explorer notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.